C'est heureux mécontentement que de désirer. Et malheureuse satisfaction que de voir son désir satisfait.
Il me c'est très difficile de mesurer la confusion.
Je me fâche, refâche et contrefâche pour le plaisir de fâcherie me cause.
La confusion.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Salon de Musique, une émission tournée autour de l'écoute, avec comme chaque mois un invité qui nous plonge dans son univers sonore. Ce mois-ci avec moi Étienne de Fonia. Salut Étienne.
Salut.
Et notre invité aujourd'hui est un compositeur sonore, plasticien, qui travaille entre, on va dire, l'installation sonore, vidéo, qui fait des liens, des ponts entre l'art et la mise en réseau, la communication. On en parlera tout de suite avec lui, donc François Parra, salut.
Bonjour à tous.
On a pu te croiser au festival Engrenage dernièrement, au mois de décembre dernier, organisé par Grenouille, où tu as fait une installation sonore, l'électrobelote. Mmh. On a pu également te croiser un petit peu plus loin dans le temps, vers le Fort Saint-Jean, pour une exposition organisée par le MUCEM autour du hip-hop, où tu as fait une installation interactive.
Ouais, je ne l'ai pas faite toute seule, je rectifie tout de suite, parce qu'on était plusieurs auteurs dessus, mais effectivement, il y avait une installation. Le dernier étage, la partie multimédia de l'installation hip-hop, elle a été conçue par trois autres personnes et moi.
Qui permettait à tout le monde, des enfants, des adultes, de composer soi-même son propre morceau.
Mmh. Oui, faire sa chorégraphie, faire son clip, faire son cirque à lui avec ce qu'il avait dans ses poches ou dans sa tête.
Donc dans tous tes travaux, le son est au cœur,
oui.
Mais... il ne se suffit pas en lui-même, si j'ai bien compris ta démarche.
Ouais, en fait, venant plus d'un parcours de plasticien, on va dire, puisque en fait, ma formation, en gros, elle a été faite dans une école d'art. J'ai plutôt tendance à prendre le son comme un matériau dans ce qu'il induit comme circulation et comme rapport à l'espace. Ça implique forcément un rapport au temps et à la composition, mais enfin en tout cas on va dire que un peu différemment d'un musicien qui pratiquerait la composition de manière un peu plus classique, enfin avec n'importe quel outil d'ailleurs, dans l'idée de faire un moment de temps qu'on peut extraire et puis écouter ou réécouter comme on veut à un moment ou un autre, moi j'ai plutôt tendance à effectivement travailler le son comme une matière et en écrivant des processus qui font souvent appel au public, qui se retrouvent du coup à la fois acteurs et auditeurs. J'ai plutôt tendance à travailler de cette manière-là.
Et en utilisant souvent les nouvelles technologies.
C'est indispensable. Je crois que s'il n'y avait pas cette technique-là, je ne serais pas grand-chose.
Ouais. Remarque, avec ta guitare, tu pourrais t'en sortir, non?
Ouais, sûrement aussi, mais ça ne donnerait pas la même chose.
Et justement, tu voulais tourner ce salon de musique autour de la chanson.
Ouais, alors le petit extrait sonore que vous avez entendu juste après le générique de l'émission c'est la toute dernière partie de Sgt. Pepper's des Beatles, qui pour moi reste quelque chose d'incontournable. On va dire d'un point de vue esthétique et technique. Et en gros, je l'ai diffusé ce morceau-là parce que je crois que c'est la première fois où j'ai entendu un son qui m'a paru tellement étrange, qui m'a donné envie de faire du son moi-même. Ça m'intéresse que ce son-là fasse partie d'un album de pop musique avec des chansons, en l'occurrence, Sgt Pepper's. Et donc, j'ai décidé que la thématique de l'émission tournerait autour de la chanson, on va dire, de manière totalement étendue. Et on va essayer d'écouter la chanson, non pas pour ce qu'elle est, mais comme un matériau qu'on peut écouter, transformer, remodeler, remixer. Voilà.
Juste pour redire le principe aux auditeurs qui ne connaîtraient pas cette émission, c'est qu'effectivement l'invité, donc là aujourd'hui François Parra, nous invite dans son salon et nous fait partager son univers sonore, ses sensibilités, ce qui l'interpelle, ce qui l'intéresse aujourd'hui, hier. Donc là, comme tu viens de nous le préciser, c'est autour de la chanson qu'on va s'arrêter pendant une heure et quart, une heure et demie, avec à la fois des morceaux de musique, et puis en même temps, ça peut aller aussi sur le documentaire, ça peut aller sur des formes sonores un petit peu différentes que juste le morceau musical.
Peut-être qu'on va passer un extrait suivant. Ben, moi, je vous propose un deuxième extrait qui est quelque chose qui, moi, est très important pour moi, qui est extrait d'une compilation qui s'appelle Plunderphonics de John Oswald. En l'occurrence, là, c'est une réinterprétation d'un morceau original de Dolly Parton qui s'appelle Pretender, qui est en gros une espèce de cover qu'avait fait Elvis avant elle. Et en fait, John Oswald, lui, il a fait tout un album comme ça où il a pris tout un tas de morceaux populaires, on va dire presque genre par genre. Et il est passé en studio et en fait, il a fait un travail de recomposition complète de tous les morceaux. Ce qui fait qu'en fait, d'un morceau, on va dire, de musique populaire, on arrive à quelque chose qui est limite de l'abstraction. Et c'est un exercice de style par rapport à ce qu'est une chanson qui, moi, m'intéresse. On y va.
Alors, François Parra, donc, il y a les manettes qui contrôlent son ordinateur dans le studio.
Too real.
Ça faisait partie du morceau Pretender, juste la petite fin.
Ouais. En fait, c'est un espèce de, on va dire, de contre-proposition à l'intérieur même du morceau. C'est-à-dire que vous aurez pu entendre qu'en gros, Osvald, là, il a travaillé énormément plus sur des histoires de pitch, en fait, où il a suivi la partition du morceau en repitchant au fur et à mesure les voix. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, du coup, ça fait des espèces de glissando sur la voix de Dolly Parton, qui sont des trucs qu'on peut absolument pas faire d'un point de vue vocal. En fait, la toute dernière partie, à la place de ce procédé-là, en fait, simplement, il récupère uniquement les attaques de la voix et il se défait de toutes les syllabes derrière. Et donc, ça donne cette espèce de rythme un peu saccadé. Voilà, et donc on parlait de chansons au sens large comme un matériau utilisable, transformable, et moi je trouve que c'est une assez belle leçon par rapport à ça, quoi.
J'imagine que dans le travail d'Osvald, il y a une sorte de démarche de provocation aussi un peu là. Dans ces glissando là, il fait changer de sexe à Dolly Parton, qui devient d'un coup un mâle très viril.
Quand on connaît un peu le par exemple le répertoire de Dolly Parton et le genre de choses qu'elle a pu chanter, bah, je pense que c'est quand même la moindre des choses. Je sais pas si vous connaissez genre des morceaux de type Stand By Your Man ou des choses comme ça, et ce qu'elle raconte dedans, c'est toujours quelque chose de complètement ambigu entre son statut de femme et puis la société dans laquelle elle est. Enfin, voilà.
Oui, c'était une icône homo, non ?
Ah ben oui, clairement. Hein.
Ouais,
clairement, je crois que... Enfin, moi, je pense que John Oswald, il fait autant de la provo que ce qu'il aime, ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce travail-là, c'est quand même un peu un travail d'orfèvre. C'est-à-dire de reprendre vraiment tout un morceau et de le retravailler comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a à la fois quelque chose de l'ordre de la provocation et quelque chose de l'ordre de l'affection sincère pour ce qu'est une chanson et qu'est-ce qu'on peut en faire, et voilà.
Mégaphonie.
La proposition suivante, ce sont les trois premières minutes d'une pièce de Jérôme Joye, qui s'appelle donc Mégaphonie, qu'il a écrite en 1977, où en fait il traite la voix dans son rapport le plus abstrait, un peu de la même manière qu'on a pu entendre les voix sonner sur la fin du morceau de Dolly Parton. Et ça, je pense que c'est un endroit assez intéressant aussi, qui pour moi a un rapport assez évident à la chanson, dans le sens que ça utilise un matériau vocal à la fois pour son son et pour son sens, et ça joue sur un espèce de double endroit comme ça. Et là, donc Jérôme Joye, en 1977, est allé vraiment dans le sens de l'abstraction, c'est-à-dire, vous entendrez, il coupe carrément ou les attaques ou les résonances des voix, de manière à les rendre uniquement des morceaux de son. On y va pour Mégaphonie, alors.
Tente.
A triangular roof in a square form. From all countries,
Un extrait de 3 minutes à peu près de Jérôme Joye sur une création qu'il a réalisée a priori en 77. Ouais. On en est pas, enfin on en est sûr mais presque, mais pas complètement non plus, parce qu'on se dit quand même il est pas si vieux que ça aujourd'hui. Mais ce serait peut-être un travail de jeunesse qu'il aurait fait. Donc Mégaphonie, ce qui nous a donné envie d'écouter un petit peu plus le travail de François Parra, qui est notre invité, qui a réalisé un travail qui s'appelle Le Matériau.
Comment est-ce qu'on peut mettre ces deux travaux sur la matière sonore qu'on vient d'écouter, très différents, enfin, un travail sur la voix, où il y a une sorte de déconstruction du langage, en tout cas, de Jérôme Joye, puis le travail sur la chanson, la forme populaire de la chanson, avec... avec cet extrait que tu nous proposes, là, les matériaux.
Ouais. L'extrait que j'ai proposé, donc c'est un principe de chanson qui ont été écrites avec Peter Sinclair et Eddie Godberge. Donc on les interprète nous-mêmes et on les a fait au moment où on était en train de travailler sur un spectacle qui s'appelait John et la fée électrique. Et en fait, c'était un spectacle où on manipulait simplement des objets et le déroulement du spectacle avait beaucoup trait à la chanson, c'est-à-dire qu'on écrivait des chansons et le principe était d'utiliser le travail en atelier avec les sons, l'univers et les histoires que ça raconte pour écrire des morceaux. Et en fait, le lien pour moi qui se fait avec ce que je proposais avant, c'est comment les sons concrets qui arrivent dans la chanson génèrent tout un univers autour de la chanson et comment cette chanson-là prend appui sur une situation réelle pour devenir une fiction. Avant, je pense qu'on était dans le principe inverse, c'est-à-dire qu'on partait de quelque chose de très réel, qui est une voix à un moment, pour arriver vers quelque chose de très très abstrait. Et moi, je pense que c'est deux cheminements qui se complètent, on va dire. Parce que si je disais que j'avais envie de parler de chansons de manière large, c'était dans un rapport justement qui m'intéresse entre l'abstraction et représentation, ou alors le son et le sens. Et je pense que c'est deux choses qui peuvent cohabiter dans les mêmes morceaux, mais qui sont deux pôles de la même chose qui moi me parle. Voilà. Le morceau, par exemple, qu'on a entendu de Sgt Pepper's au départ, donc le dernier morceau de Sgt Pepper's, c'est de l'abstraction totale. Or, ça reste quand même des bribes, des chutes de voix qui ont été prises en studio, qui sont donc extraites de chansons. Et en faisant un simple travail de montage, en fait, on arrive à quelque chose qui est une espèce de polyphonie ou de chorale abstraite. Et moi, c'est un endroit qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire à quel endroit on atteint la limite du compréhensible ou à quel moment est-ce que la musique se met à exister. À quel moment on dit les choses, ça commence à devenir de la musique? Parce que avant d'être de la musique, c'est du son. Je veux dire, ma voix, c'est un son. C'est un son. Vous en comprenez le sens parce qu'on parle le même langage, mais au départ, c'est quand même un son. Et c'est pour ça que les extraits sont un peu dans cet ordre-là. Parce que moi, c'est quelque chose qui me questionne énormément, la question du sens et du son. C'est-à-dire à quel moment on décroche du sens ou alors à quel moment on se met à faire sens et pour quelle raison? Je sais pas, c'est...
Bon, peut-être qu'on va écouter, puisque le sens, il arrive aussi avec l'écoute.
Voilà.
Donc, François Parra, Eddie Godberge.
François Parra, Eddie Godberge et Peter Sinclair dans un morceau qui date de 1970.
Donc, non, beaucoup plus récent.
Charge de matériaux. Charge les matériaux avec des petites mains, avec ses petites mains. La machine tourne pour nous emmener à Broadway. C'est éclair, on vient ses repères. Je fais du gauche à droite, gauche,
droite. Les bras nous aident, qui portent les outils.
C'est ainsi,
ça c'est bien gentil. Ça c'est moins gentil. On doute de rien, on travaille d'arrache-pied. Marteau par-ci, un coup de marteau par-là. Je ne suis pas un feignant, je termine le chantier. Où je suis, papa, attaque la patranche.
Oh là, ma main est franche.
Ne te coupe pas les doigts. Oups, j'ai failli me les couper.
Jusqu'au ciel,
toi, au sommet de l'escalier, à condition d'arriver à le terminer.
Comme une marche de pause,
toi c'est levé. Faut savoir s'y prendre pour pouvoir redescendre.
On formera
cheval et des ouvriers. La 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 la.
Il y a un petit côté sept nains au travail.
Ben, c'est exactement ce que c'était. Nous, sauf qu'on était que trois. Ouais. On était trois nains au travail et on faisait des chansons avec ça et c'est assez chouette. Enfin, moi, j'aime bien ce que ça... Ça raconte simplement ce que c'est, c'est-à-dire on est en train de travailler et puis on fait des chansons avec ça. Et tout ce qu'on peut entendre comme son, bon, en dehors de la basse et la guitare qui sont des instruments classiques, tout le reste des sons, en fait, c'est Perceuse. Des sons qu'on enregistrait à l'atelier en travaillant pendant qu'on était en train de construire des objets. Et puis voilà, le soir, il y avait une session d'érochage et on avait un petit magnéto 4 pistes. Désolé pour le son, mais c'est un peu d'époque. Et donc, on composait des morceaux en utilisant ce qu'on avait pris autour de nous dans la journée. Ce qui, moi, je trouve... c'est un principe de travail que je trouve assez intéressant. En fait, de livrer aussi l'univers d'où vient un morceau, ou alors d'écrire sur un univers. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve assez chouette aussi dans les chansons, c'est que ça trimballe tout un univers avec soi. Ça raconte une histoire, et ça campe un univers autour d'un interprète, voilà. Et là-dedans, on l'entend très bien. En gros, c'est une espèce de chorale d'ouvriers, et c'est de ça que ça parle, qui utilise sa perceuse pour faire un morceau. Et donc tout ça passe dans le mixage, et moi j'aime bien l'endroit que ça campe, quoi. Voilà.
Sans forcément qu'il y ait une suite, sans forcément qu'il y ait une vie au-delà du studio, de l'atelier.
Non.
C'était pas dans un but, c'était vraiment juste dans un but de s'amuser.
C'était pas dans un but de s'amuser, c'était dans un but de trouver des processus de travail. Parce que ces morceaux-là, on les a jamais joués tels que, parce que c'était des enregistrements. C'était plutôt de coucher des idées. Et du coup, il y a certaines structures qu'on a réutilisées derrière. Tous les sons des outils, par exemple, ils ont été utilisés en cours de spectacle. Ce morceau-là, je ne crois pas qu'on l'ait jamais joué, et encore, je ne suis pas sûr. Mais par contre, c'est des idées au travail, tout ça. Et il y a pas mal de principes dont on s'est resservi après dans le spectacle, même si ce n'était pas livré tel quel. En fait, ça permettait de raconter une histoire et de camper un univers, de gérer du temps et de l'espace, on va dire, comme d'hab, quoi. En prenant les matériaux qu'on avait sous la main, des techniques qu'on avait sous la main. Bon, voilà. C'est recycler du travail, on va dire.
On continue à se balader dans ton Pro Tools ?
Ouais, d'accord. Ce que je vais vous faire écouter maintenant, c'est un extrait d'une bande-son, d'une installation que j'ai fait en 95, si je me souviens bien, qui était une commande du GMEM. Donc je l'ai montré dans le cadre de leur festival. Et donc c'était une installation interactive autour de laquelle les gens pouvaient jouer sur une bibliothèque de sons qui était composée de morceaux populaires. Sauf que comme ils déclenchaient ça avec des capteurs qui étaient difficiles à maîtriser, en fait, ils allaient piocher des samples dans la base de données. Et du coup, ils arrivaient sur la base de morceaux populaires à faire des choses extrêmement abstraites. On revient à l'histoire du concret et de l'abstrait. Et donc, ce que je vais vous faire écouter, c'est en gros 3 minutes de ce que pouvaient manipuler les gens comme matériaux. Voilà, je vais le trouver. Et ce que ça pouvait donner. Je vous demande 2 secondes. Donc ça, c'est un mix à couper au couteau. Donc un mix au couteau, sorti tout droit d'une de mes installations sonores, peut-être un peu dense. Pour se reposer les oreilles, je vous propose une autre sélection musicale, qui est une reprise des Beatles, encore et toujours, par un musicien totalement inconnu, que vous pourrez trouver sur le site qui s'appelle dictionaraok.org. Le principe de ce site étant que tout le monde peut contribuer. Il suffit simplement de télécharger les MIDI files des morceaux que vous voulez remixer, ainsi que que les voix de l'encyclopédia Encarta. Et avec ça, vous pouvez faire l'interprétation que vous voulez du morceau de votre choix et le mettre à disposition des auditeurs sur le site. Moi, j'avoue que ça m'amuse beaucoup. Alors, on va écouter ça.
Donc là, c'est un...
C'est une version de Michel des Beatles.
Mais par un internaute ou par un des concepteurs du site
Je pense que c'est ou par un internaute ou par un des concepteurs du site, parce que c'est totalement... anonyme, enfin du moins, c'est tout le monde est inscrit sous des pseudos et tout le monde mixe et remixe ses morceaux et puis le dépose et puis ça donne ce que ça donne.
Tu as participé ?
Non, je n'ai jamais participé à cette chose-là parce que je ne suis pas assez bon pour ça. Enfin, je ne sais pas pas faire des choses comme ça. Voilà. Mais par contre, je trouve l'idée vraiment chouette de pouvoir faire des remixes de standards populaires avec des instruments MIDI. Je pense que je peux expliquer ce qu'un instrument MIDI, c'est en gros les petits synthétiseurs que vous avez sur chacun des ordinateurs. Les MIDI files étant les partitions de tous les grands classiques de la musique populaire, mais qu'on trouve sur le net et qui s'échangent tout à fait librement. Et donc,
une sorte de partition qui joue des instruments virtuels. Voilà,
c'est une partition musicale. Et là-dessus, vous venez plaquer les voix de l'encyclopédia Encarta qui a été développée par Microsoft, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et avec ça, vous faites un morceau que moi, je trouve amusant. On va l'écouter.
François Parra dans le Salon de musique.
Mish, hell, ma,
bell, these are
words
that go
together well. I mish, hell, mish, hell, ma,
bell, so, day,
mo, ji,
mo, tray,
be,
n, ensemble, tray,
be, n,
ensemble.
I,
love, you,
I,
love, you,
I,
love, you. That
all I
want to say until
I find a way. I will
say the only
words I know
that you'll understand.
Mish, el, ma,
bell, so, day,
mo, ki,
mo, tray,
be,
n, ensemble, tray,
be, n,
ensemble.
I to
I to
I to I
to
make
you see. Oh,
what
you mean to me until
I do. I'm hoping
you
will know what I
mean.
I love
you.
I
want you.
I
think you
know
by now. I'll
get
to you somehow. Until
I do, I'm telling
you so you'll understand.
Mish, hell, ma,
bell, so, day,
mo, ti,
mo, tray,
be,
n, ensemble, tray,
be, n,
ensemble.
I will
say the only
words I know
that you'll understand.
I wish help.
Well.
C'est dommage, j'aurais pensé que ça allait partir complètement en vrille à la fin.
Ah oui.
Ça allait complètement tout se mélanger, devenir que l'ordinateur finalement arrive à un bug.
Moi, ce qui m'intéresse dans le morceau et à la fin, c'est que bon, on peut trouver que c'est une sorte de poésie un peu bizarre ou un peu particulière, mais je trouve que sur la fin du morceau, moi, les voix elles commencent à me toucher vraiment. Alors que quand on y réfléchit, c'est de la synthèse 11 kilos faite pour diffuser des encyclopédies. Et en fait, moi, le truc qui m'intéresse là-dedans, c'est à quel moment ces choses-là commencent à prendre un peu de l'âme. Et je trouve que les voix, à la fin, effectivement, on peut regretter que ça parte pas dans tous les sens, mais je crois que là, le type s'est amusé vraiment à remixer avec une métrique très particulière. Mais en tout cas, je trouve que les voix, à la fin, commencent à prendre un côté, parce que tout s'amoindrit, toute la musique disparaît derrière, et puis du coup, il reste plus... Que
cette musique, ouais. Parce que finalement, il y a la musique qui apparaît même dans ces voix artificielles. Voilà. C'est ça qui est fou.
Et moi, personnellement, elle me touche, les voix. C'est-à-dire, ça fait genre, c'est peut-être la 50e fois que je l'entends. Et j'attends toujours la fin du morceau parce que j'adore les voix de la fin du morceau. Qui ressemble d'ailleurs pas mal au mix, enfin, au petit extrait sonore qu'on a entendu en début d'émission, qui sont un peu basés sur le même principe d'échantillonnage.
Je me suis dit en écoutant quand même que l'ordinateur n'arrivera jamais à imiter la voix de l'homme.
Non, mais non. Non, mais je crois pas que ça soit le, je crois pas non, que ça soit non. L'idée. Mais par contre, moi je trouve que ce genre de choses là, ça me fait penser que l'ordinateur est capable de générer des émotions qui sont pas les émotions humaines, mais qui a sa propre poétique, sa propre politique et ses propres émotions. Et je trouve, enfin moi ça m'intéresse beaucoup à cause de ça. Parce qu'un des, en fait, un des aspects qui me tenait à cœur aussi dans ce débat sur la chanson, c'était la relation de l'humain à la machine ou à l'univers ou à la mécanique qui l'entoure. Je trouve que ça en est un exemple assez bon, quoi. C'est-à-dire, ça remet tout à plat. On se retrouve devant ce qu'est bêtement une partition, à savoir des suites de chiffres ou de notes ou étalées dans le temps, qui peuvent être finalement jouées par n'importe qui ou n'importe quoi, avec au milieu une voix approximative qui essaie de se débattre avec tout ça. Et moi, c'est une vision du monde et une mécanique du monde que je trouve assez chouette.
Et dans seulement ces quelques mots qui restent à la fin de la chanson, moi il m'a apparu voilà, la simplicité de la chanson populaire aussi, avec ses « together »,« love »,« you ». Et voilà, je me demandais si c'était ça aussi qui t'intéressait dans la forme chanson, quoi. La simplicité... Ouais. Du message. Et en même temps la qui peut être très profond, mais
en tout cas c'est la simplicité de la forme qui fait que tout le monde peut se l'approprier, qu'on peut la malaxer dans tous les sens, qu'on peut lui faire dire autant de choses que ce qu'on a à lui dire. Ça, il y a une question d'appropriation dans la chanson que moi je trouve vraiment très intéressante. Et malgré ce, en fait, dans ce format-là, qui est le format on va dire le plus simple de l'écriture musicale, on peut aller dans des endroits extrêmement sophistiqués. Genre, par exemple, il suffit d'écouter l'ensemble de Sgt. Pepper's pour se rendre compte qu'au-delà de l'écriture des morceaux, il y a tout un univers qui gravite autour, ça raconte énormément de choses. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable que cet album-là, il ait été redécouvert quand il a été édité sous forme de CD, parce que dedans, les Beatles, il y avait inclus un tel travail de studio qu'il y avait des sons qu'on n'entendait même pas en vinyle. Et il y a des gens qui ont racheté le CD en se disant « mais c'est incroyable, il y a des choses qu'on n'avait pas entendues dedans ». Il y a cet aspect-là, et puis il y a tous les arrangements qui sont assez incroyables dans cet album-là. Enfin, moi, je le cite assez souvent en référence parce que, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un très bel équilibre entre chanson populaire et musique expérimentale. Et je trouve que c'est un équilibre qu'on n'a pas dépassé depuis. On a fait des tas d'autres expériences musicales, d'autres formes, on a expérimenté. C'est pas une, je prône pas ça en jugement de valeur, mais moi je trouve que c'est un équilibre qui est assez incroyable, cet album-là, parce que justement, derrière ces petites chansons à 2 francs, il y a tout un questionnement de la pratique sonore, de la pratique du studio, de la pratique de l'enregistrement, du montage et du mixage, qui pour moi va très loin, qui va jusque dans des choses complètement abstraites, en fait, simplement de jouer avec les sons pour ce qu'ils sont, ou de faire rentrer un orchestre symphonique dans un morceau de musique populaire, ce qui a l'air de rien, parce que maintenant on y est complètement habitué. Moi je pense que quand les Beatles ils ont enregistré avec le symphonique de Londres, à mon avis c'était un truc complètement incroyable, et je pense que derrière ce petit format de 3 minutes basé sur ce qu'est la face A ou la face B d'un 45 tours, il y a tout un univers qu'on peut développer qui pour moi va dans toutes les extrêmes. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui... Enfin, pour moi, c'est un format qui permet de construire énormément d'idées différentes. Au-delà de ce que je cite, moi, comme étant mes sources, par exemple, ce que vous avez pu entendre tout à l'heure provenant de 3D Jukebox, c'est ni plus ni moins que mon envie là derrière, c'était est-ce que je peux donner aux gens un outil qui permettrait de construire des sons proches électroacoustiques, mais en prenant appui sur des morceaux populaires. Et c'était un peu le sens de cette démarche là. Et quand je réécoute l'extrait, moi je peux vous citer tous les morceaux qui sont joués, même sur des échantillons de 10 millisecondes, parce que ça donne une couleur particulière au son, malgré son abstraction.
Qui est directement reconnaissable.
Qui est directement reconnaissable. Enfin, on pourrait faire de l'analyse. Ça prendrait un peu de temps, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours pareil, cet endroit entre citation et déconstruction, entre abstraction et représentation. Voilà, c'est un peu.
Alors, ce lien entre la musique populaire, la musique savante, la chanson et les nouvelles technologies, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse aussi René Lucier, puisque tu as voulu nous en faire part?
Ah oui. Ouais,
comme
ouais.
Je ne connais pas ce musicien, on l'écoute et on en parle après ou tu veux en parler un petit peu?
Ouais, je pense que c'est peut-être bien de décrire un peu le procédé. René Lucier, c'est un compositeur québécois avec l'accent, donc qui a fait un album qui s'appelle Le Trésor de la langue, qui parle du conflit de la francophonie et de l'anglophonie au Québec. Je ne sais pas si on dit anglophonie d'ailleurs.
On dit anglophonie.
Donc il a procédé de la manière suivante. Il a passé quelques années à enregistrer tout azimut, tout type de matière sonore, principalement vocale, à la radio, la télé, dans la rue. De ça, il a composé une bande qui dure une heure, qu'il a relevé scrupuleusement note à note, qui est un travail de taré, c'est-à-dire qu'il a écouté tous les gens qui parlent et il a relevé et fait des partitions de toutes les voix de sa bande. Suite à ça, il a invité des musiciens à doubler avec leurs instruments tout ce qui était dit sur la bande. Et donc, ça donne un paysage sonore qui, outre le fait qu'il questionne les problèmes de langue au Québec, fait sonner la voix de manière totalement étrange, alors qu'en fait, c'est juste des mots. Lui, ce qu'il dit par rapport à ça, il dit qu'il est lui-même surpris de constater que quand on parle, on est compris et ça ne pose aucun problème. Et quand un instrument fait la même chose, alors là, ça devient monstrueux. Mmh. Voilà. On écoute ça ?
René Lucier.
Comme on a fait toutes les démarches, tranquillement, poliment, respectueusement, auprès de toi et gouvernement, là on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
Ça fait l'amour, mais t'as le soir du moment.
C'est ça qu'on va faire.
Vas-y, tu fous, ouais. Prends le cochon, tu fais attention, tu lèves la peau du cochon, tu fous dans la peau du cochon, tu fous dans le monde.
C'est ça qu'on va faire.
Il y a des domestiques avec des fusils qui viennent, avec tout le fusil à la main.
C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
Tu sautes, tu peux voir, tu sautes. Mon matin, il fallait que tout ce qui était dans le sang, il y avait des marouilles, des portos, des rois, dit, hey, maudit, qu'est-ce que tu fais là?
C'est ça qu'on va faire!
Hey, ben, pas de mauvais, le job!
C'est ça qu'on va faire!
Ben, t'entendais, vous la voyez comme il faut, là, puis tirer, manquerait pas.
C'est ça qu'on va faire!
Oui, va me tuer, c'est la voix du pauvre, oui, il n'est pas son top, chop! Puis tu vas le pogner, là,
qu'il manque.
C'est une couverture qui se va découvrir.
C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
La route pour aller à Montréal, c'est où? Ça, tu vas pogner Sainte-Marie, tu vas pogner une lumière à l'autre bout. Ouais. C'est pas la première lumière, deuxième lumière, tu revires à gauche, tu pognes un truc, tu pars.
Ok, ben, je te remercie. Salut!
Qui va le porter mardi prochain.
90% des bureaux de scrutin. Oui, 1 350 385 votes. Non, 1 956 734 votes. Et 40.8 et du non 59.2.
Voilà donc un extrait du Trésor de la langue de René Lucier que j'ai un petit peu coupé, mais.
Alors avant peut-être la fin de cette émission qui n'est pas pour tout de suite puisqu'on a eu très envie, enfin, en tout cas François, de diffuser une pièce sonore de Luc Ferrari qui dure une demi-heure, ça sera le brise-glace en fin d'émission. Peut-être écouter un autre morceau, enfin une autre composition sonore de toi.
Ouais, de moi, enfin de toi. De moi, ouais, de moi, on va relativiser parce que... De moi, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Ce que je vais vous donner à entendre, c'est extrait d'un projet qui est une sorte de jukebox en ligne, donc, qui est en fait un site web qui s'appelle www.autotune.tk. Pour l'instant, en tout cas, il est à cette adresse-là. Donc, c'est un automate musical qui est en ligne, avec l'idée derrière que vous vous connectez sur le site que je vous ai donné précédemment, vous enregistrez votre voix, le morceau qui vous plaît, il n'y a pas de contraintes, c'est totalement a cappella et vous faites ça sur le micro de votre ordinateur. Une fois que vous avez enregistré le morceau, vous l'expédiez sur le site, il y a un serveur qui tourne, qui lui récupère votre voix. Fait un relevé de toutes les hauteurs que vous avez chantées.
Ce que faisait René Lucier, justement. C'est ça qu'on appelle l'autotune, d'ailleurs.
Voilà, c'est-à-dire que moi, c'est exactement le même principe. De toute façon, je crois que depuis le début, ça tourne quand même un peu autour des mêmes obsessions. Sauf que moi, ce que je voulais faire, c'était le faire de manière à ce que tout le monde y ait accès. Pas en temps réel, c'est-à-dire pas l'idée que chacun puisse faire de la musique en temps réel. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est que quelqu'un puisse chanter une chanson, la mettre dans une base de données et après que la base de données l'utilise pour recomposer de nouvelles musiques. Donc la fin du principe, c'est que le programme, une fois après avoir analysé les hauteurs de votre propre interprétation, stocke ça dans une base de données, puis lui, il a des partitions qu'il lit, qui sont encore des MIDI files, encore une fois des MIDI files, et en fait, chaque canal d'un MIDI file, c'est-à-dire le canal, parce qu'un MIDI file est décomposé en plusieurs pistes qui correspondent à chaque instrument de la partition, la batterie, la basse, la guitare, chaque canal va chercher dans la base de données une voix et l'utilise comme son interprète. Donc, en gros, si la piste basse a besoin de telle hauteur, elle va chercher cette piste-là dans la voix qu'elle a choisie. Est-ce qu'elle peut la trouver ? Si elle la trouve, elle joue. Si elle la trouve pas, elle joue pas. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière assez concrète ? C'est moi, je donne ma voix à la machine et la machine s'en sert et elle m'en renvoie une nouvelle version. Et ce que je vais vous faire entendre, c'est ce qui a été produit par la machine. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une composition, c'est un programme. Voilà. Mm-hmm. C'est un programme qui a été fait, et une fois que le programme est en place, moi j'y touche plus, je le laisse faire, et je vois si esthétiquement il y a des choses qui sortent et qui me plaisent.
Et tout cela tourne encore autour de la chanson populaire, alors ?
Oui, oui, parce que ce que je demande comme contribution à la personne qui vient se connecter sur le site, c'est un morceau de chanson populaire. Bon, après par contre, ce qu'en fait la machine, c'est plus abstrait.
Il y a
Qui conduisait en pleine.
Il est frivole, mais ce Gaston s'occupe du téléphone.
Ok. Voilà, donc vous venez d'entendre...
Quelle chanson, ça, alors, qu'on entendait ?
Alors, la partition qui tournait derrière, c'était Nowhere Man des Beatles.
Encore les Beatles ?
Encore les Beatles, mais décidément, ouais, c'est récurrent chez moi. C'est bien, il faut faire des émissions radio pour se rendre compte à quel point on est obsédé par certaines choses. Et donc, en fait, il y avait quatre voix différentes. Si je pense que je dois pouvoir citer, il y en a une qui chantait Gaston au départ, enfin, la personne a chanté ça. Donc morceau de Nino Ferrer, il y a un morceau de Charles Trenet, un morceau des Beatles et un morceau de la quatrième voix, si je me souviens bien, elle chantait, je crois, du Jack Teagarden. Et en fait, donc les quatre voix sont totalement mélangées par le programme, c'est-à-dire c'est le programme qui refait lui des morceaux en utilisant les gens comme interprètes. Et moi j'aime bien cette histoire-là. De dire qu'on peut manipuler la machine ou que la machine peut nous manipuler. Voilà. Mmh. C'est un espèce d'aller-retour où pour une fois, ça me plaît que la machine ne soit pas transparente et qu'elle ne soit pas simplement un truc à notre service, mais qu'on soit un peu aussi à son service.
Alors, on va dire presque en conclusion de cette émission. Tu as voulu, François, nous faire écouter une création de Luc Ferrari, puisque très logiquement et de manière très naturelle, il y a un lien entre les Beatles et Luc Ferrari, et plus particulièrement la création « Et si tout entière maintenant ?» avec les Beatles. Donc, bon, pour toi, ça a l'air complètement évident, mais ça l'est pas forcément pour
je
tous.
Sais pas si c'est très naturel. je pense que ça sort un peu de mon esprit. En fait, je trouve qu'il y a, pour moi, il y a un lien très très direct entre les deux pièces. C'est le côté une voix qui est en train de raconter une histoire au milieu des éléments. C'est-à-dire que je trouve ça dans Sgt Pepper, c'est-à-dire que en gros c'est des suites de chansons qui racontent une histoire au milieu de tout un univers qui gravite autour, qui sont des échantillons, qui sont un orchestre, qui sont des musiques très très arrangées avec tout un travail de studio. Et je retrouve la même chose dans Ici tout entière maintenant.
Alors ça tu dois le retrouver dans tous les documentaires. Alors il y a souvent une voix qui raconte au milieu d'éléments. C'est souvent le cas.
Oui, mais c'est là où c'est intéressant, c'est quand la fiction a une certaine part de concret, enfin quand on est dans un aller-retour. Et effectivement, dans le documentaire, il y a ça, mais moi j'aime beaucoup le documentaire radio ou les fictions radiophoniques. Je trouve c'est un très beau format, quoi. C'est un format où on peut raconter des histoires en utilisant tout un univers autour de soi.
Qui t'inspire des chansons.
Voilà, qui m'inspire des chansons parfois. Et bon, je pense que ce que je fais comme association entre Sgt Pepper et Si tout entière maintenant, c'est une association tout à fait personnelle. Par contre, je souhaitais aussi diffuser cette pièce-là parce que j'ai quand même eu la chance, on va dire, de rencontrer Luc Ferrari plusieurs fois et qu'il a, outre ce que moi je fais comme interprétation de sa musique, ce que par contre je peux dire de manière assez certaine de sa musique, c'est que lui, il a un rapport au son qui m'a toujours passionné. C'est-à-dire qu'il a un rapport au son qui est totalement, on va dire, pas non musicien, mais qui a un rapport très concret, c'est-à-dire d'après ce que j'ai pu comprendre de ce qu'il m'a dit, il ne s'est jamais posé la question de savoir s'il faisait réellement de la musique ou non. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les autres, c'est faire des choses avec les autres, et il a trouvé que la musique, c'était un bon moyen de générer ou détourner ou créer des situations nouvelles. Et il l'a fait dans cette optique-là. Et moi, je me sens très proche de ça, en fait. Non pas de partir d'un point de vue musical, mais de dire, avec le son, qu'est-ce que je peux créer comme situation ou comment je peux modifier une situation ou en faisant des chansons, ou en les détournant, ou en composant, ou en demandant à des gens de participer à une situation. Mais en tout cas, c'est un rapport au son qui, moi, me touche. Voilà, de pas avoir une idée présupposément musicale du son, mais le prendre pour ce qu'il est, quoi, comme ce qu'on entend, comme les chaises, et de savoir utiliser toutes les situations qu'on a autour de soi pour faire de la musique sans dire qu'on en fait. Mmh. Voilà.
Oui, puis comment le réel peut jouer là-dessus.
Comment le réel rentre, ou alors comment on modifie le réel, parce que je pense qu'il y a... Je pense qu'on pourrait parler assez longuement de ce qu'est le brise-glace, de comment c'est fait, de dans quelles conditions ça a été fait, par qui, pourquoi. C'est toute une histoire. Mais en tout cas, moi, c'est un compositeur qui m'a vraiment marqué dans son rapport au son. Parce qu'en fait, lui, il ne se posait pas la question de la musique. Voilà. Et ça, je trouve, c'est assez... C'est-à-dire qu'il en faisait comme il respirait. Je pense que lui, chez lui, c'était une respiration, une relation aux autres, et non pas un instrument de pouvoir. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais un petit peu à diffuser cette pièce, qui, moi, me marque autant que les Beatles. Il y a quand même beaucoup de...
Qu'on a diffusé il y a quelques années lors de sa résidence à Radio Grenouille, en 2002. Il me semble que c'était 2002 peut-être.
Ouais.
Voilà, mais bon, c'était il y a quand même quelques temps, donc c'est bien de le diffuser, de le réécouter.
Je vous souhaite une bonne écoute à tous, parce que moi, c'est une pièce qui est très importante pour moi, dans mon propre travail autant que dans mon paysage sonore.
Étienne, on se quitte là-dessus ?
Ben oui, donc on écoute « Et si tout entière maintenant », autrement nommé « Le brise-glace
» par François Parra. Tu te souviens de la date de création de ce documentaire?
Non, pas précisément.
Donc les années 90, non?
Non, je pense que c'est, à mon avis, c'est avant ça. Je pense que c'est dernier Cara, fin des années 80, mais je ne le garantis pas sur facture. Donc,
En tout cas, c'était un texte de Colette Fellouz.
Oui, ouais, c'était un texte de Colette Fellouz qui est l'interprète. Non, je ne suis pas sûr de l'interprétation.
Bon, l'essentiel, c'est d'écouter.
Voilà, et pour moi, ça, c'est. Enfin, pour en revenir à mes marottes, pour moi, cette chose-là, c'est comme une espèce de chanson de 25 minutes.
34.
De 34 minutes.
Bon, merci François Parra.
Ben, merci à vous.
Salut Étienne.
Salut.
C'était Sébastien à la technique. À très bientôt. Et puis bonne fin d'écoute du Salon de musique.
C'est toujours la même chose. Si j'avançais un pied, comme ça, l'autre pied. Et c'est tout entière maintenant. Sont 6 ou 7 et me bouscule. L'homme à la caméra se retourne, sourit, s'excuse et fait signe aux autres de monter sur le bateau. Sa moustache est redressée sur le côté. Perche, appareil de photo, micro, mallette, ils disent voilà, voilà, nous sommes prêts, nous arrivons. La femme porte un feutre noir. Je m'approche de l'homme à la veste rouge. C'est lui qui semble organiser le voyage. Il dit que je parle trop bas. Et si je pouvais parler un tout petit peu plus fort. Je répète, Peut-il me dire au bord de quoi il s'embarque? Il rit. Nous allons, disons, à la lisière du Blanc. Et il regarde mes escarpins. Je demande s'il pense que je peux faire partie du voyage, comme ça, même sans avoir rien préparé. Il dit, mais oui, pourquoi pas? Voyez le capitaine là-haut, l'homme aux lunettes noires. C'est ça, c'est lui seul qui peut décider. Vous pouvez monter si vous voulez, bien sûr, dit le capitaine. Et il regarde lui aussi mes escarpins.
Okay, so we can make a check.
Soyez les bienvenus ici. Votre chambre.
You will learn the routine on board. And after that, we take supper. And after that, you move in your cabins.
Thank you, Captain. Thank you. Welcome.
Hello.
Une présence qui devient vite familière. Je ferme les yeux. Je crois que oui, après tout, oui, même au milieu du bruit, je crois que je pourrais. C'est toujours la même chose. Il fait très chaud. C'est l'heure où tout le monde est réuni. Ce ce bateau, dit le capitaine, il brise la glace et il recommence, toujours, toujours. L'organisateur est assis à sa droite, la femme à gauche dans une robe de soie noire. Je suis la seule à avoir les bras nus. J'ai ramassé mes cheveux sur la nuque. L'organisateur parle d'équilibre entre le ciel et la mer, d'envers et d'endroit, de perte de mémoire, de pliure, de lent refermement du blanc, de fragilité.
Les premières impressions, les premiers désirs de blancheur, de glace et de brise-glace. Un matin lumineux, où soudain la lumière se transforme en poussière, envahit tout, et dans un halo de lumière, le bateau disparaît. C'est ce qui est en train de nous arriver. Nous entrons dans le giron final de la lumière. Eh ben.
On sert du poisson à la crème et du vin blanc. Je renverse mon verre, ma robe est tachée et je ris. Je dis qu'après tout, ce n'est que du blanc sur du blanc.
Oui.
Le vin blanc.
C'est le vin blanc, c'est oui. Le vin blanc. C'est le vin blanc.
Le capitaine explique tout, geste par geste. J'aime ses mains, j'aime sa voix. Il me demande si je n'ai pas froid dans cette robe si décolletée. Il dit qu'on dort beaucoup sur ce bateau, surtout au début. Que lui, par contre, il doit guetter, il doit écouter, même la nuit. Au bout de la table, les mots se mêlent. Sensibilité, couleur, voile des détails, voyage dans le hogar, chant somptueux des hommes bleus. La femme dit au capitaine qu'elle a toujours rêvé d'être chanteuse.
Non, mais c'est vraiment... Tu sais, s'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est chanter.
Et tu as une voix exquise quand je t'entends.
Là, on note.
Surtout parce qu'elle galère en train de chanter à
l'ouette.
Je dis au groupe qu'il ne faut surtout pas oublier de filmer la nuit. L'homme à la caméra rit et lève son verre à la santé du brise-glace et de la nuit.
Hey hop, not the knop. Do you think you can follow me?
Eva, sauvage, j'ai chaud, tellement chaud. Il y avait danse, il y avait rire pour moi. J'ai envie de bouger, de danser. Le capitaine dit mais oui, pourquoi pas, vous avez raison, venez, comme. D'habitude, quand je pars, c'est toujours vers le sud. Au hasard, mais vers le sud. Yo-ho, ta Sheila. Je n'aime pas le froid. Ou alors, seulement quand dans le fond de la mer, un courant glacé soudain me surprend et me brûle la peau. Mais la mer, c'est une autre histoire. Et si j'avançais un pied comme ça, vers la porte. Si je tentais de la franchir, au moins une fois. Personne ne comprend pourquoi je m'obstine à rester à l'intérieur. Et si tout entière, maintenant, même si c'est difficile. Non, non, je veux pas, je veux pas. Je veux pas. Mais pas, j'aime pas. Les pilotes parlent toujours très près des visages et très bas. C'est ce qui m'a tout de suite attirée. Je reconnais maintenant son parfum et le goût de sa bouche, même s'il est loin. Tous les matins, il part en reconnaissance avec le capitaine. Sans lui, le capitaine ne pourrait rien voir et le bateau ne trouverait pas les chemins. Il dit aussi que le reste de la journée, il s'ennuie un peu. Il ne se passe pas grand-chose sur un brise-glace, ou bien c'est toujours la même chose. J'ai pris l'habitude de le retrouver en fin d'après-midi dans sa cabine. Il ne comprend pas ce que je suis venue chercher sur ce bateau. Je ris, je dis que je ne le sais peut-être pas moi-même. Il raconte ceux qui se sont perdus, ceux qu'il a sauvés juste au dernier moment. Il dit que la glace, c'est tellement imprévisible, tellement menaçant. On peut s'en rendre prisonnier si facilement. Je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Il a les yeux noisettes et une cicatrice à la jambe droite. La plupart du temps, il y a très peu de mots entre nous. Plutôt des gestes. Je m'amuse à lui apprendre à dire foulard, un peu d'eau, cheveux qui glisseraient, escarpin. Il demande comment s'appelle cette ligne-là. Je dis hanche et celle-là. Je dis nuque et celle-là. Je dis raie. Il rit. Comme le soleil? Non, non, pas rayon, raie. Et celle-là? Je dis j'ai oublié. Il demande aussi si je connaissais déjà le capitaine avant, cette intimité entre nous, s'il y avait eu un autre voyage. Je dis non, non, c'est la première fois. C'est le moment que je préfère. Derrière la vitre, je suis tous les mouvements du bateau. J'écoute les ordres du capitaine. Le travail est précis, fendre un chemin pour atteindre le pétrolier enfermé dans la glace. Il faut agir vite dans ces cas-là. La glace ne cesse de monter et le bateau sera aspiré. Le brise-glace avance. Il est tellement lourd que la glace acquiesce, s'écarte. Mais très vite, elle se ramasse, elle revient, elle insiste. Elle entoure le bateau et se colle aux parois. Le sillon se fait alors plus profond. Les ordres s'accélèrent. Je ne veux surtout rien perdre de cette avancée. Le chemin s'ouvre, la glace est fendue d'un côté et l'avant du pétrolier est complètement dégagé.
Yeah.
capitaine ordonne de faire le tour et de se mettre bord à bord, comme ça, voilà. Il peut toucher enfin l'avant du bateau et le ramener lentement derrière lui, très près, très serré. Je ferme les yeux. L'organisateur parle de magie polaire et les conversations reprennent peu à peu. Le pilote chuchote quelque chose au capitaine et le capitaine sourit. Ils se retournent tous les deux et je leur fais un signe de la main. Glissement des hanches, sliding hips. Sådär höfter som det kommer in och upp och ner och rund i fronten. Pôle magnétique. Comme une plongée dans le bruit, djupt in i oväsen. I oväsen. Au fond du bruit, des ordres du temps, de la nuque. J'offre toujours mon dos. Ils s'approchent, ils le reconnaissent maintenant. De känner igen det. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Ils guident maintenant. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle. Et moi, je reprends mon souffle. Golfe, détroit, dissonance, satin autour de l'âme qui persiste, qui s'insinue, qui persiste, Trolls. Out sounding, so, like you don't hear it, you just listen. Around, around, lame and tame. Comme un chien, volcan, sluta plus. Tu sluta. Venez plus près, ne bouge plus, c'est une chance, ce cri dit. Venez plus près, ne bouge plus. L'heure est pour des snelles, la snelle. C'est une chance, ce cri. Tout d'un âge, cri que va. Plus lent, encore que votre souffle. Slowly, slowly. slowly. Les choses ont des bords. Sauf se retire en même temps. Yesai au corifrun, torifrun, ritu. Je veux nouer, ramasser. Horet up, som du kinte kanto. Up po huvud. C'est ce que j'ai voulu. Tu vas précis, voyons vite. Au fond du bruit, des ordres des tempes, de la nuque. J'affoue toujours mon dos. Il s'approche, ils le reconnaissent maintenant. Je m'écarte. C'est une course toujours nouvelle. Ils guident mes mains et le bord de leurs yeux est transparent. Je sais que la glace autour s'étrangle et je reprends mon souffle. De dalles d'erreurs, de traces et d'odeurs de sel. Smakar som salt. Rör inte på dig nu. Jag ska älska dig så länge så här. Je veux t'aimer longtemps comme ça. Je confonds vos corps. Jag blandar ihop er kroppar helt. Je confonds les cicatrices. Chemin où il est impossible de ne pas se perdre. Tema inte kan gå vidare. Bassin, chemin, grandes irrégularités. Où régulièrement.
Soleil sur ton dos.
Mais ça ne me va. Solen på din bord. Så vacker. Battement des machines.
Danse des golves.
Danse des golves. Ne bouge plus. Et vos yeux. Eran ögon. Your eyes.
Comme ça. Tout au bord.
Precis.
Comme ça. Tout au bord.
Så här. C'est au bout de ce voyage immobile, drap d'effet qui glisserait loin du corps, soit froissé, nuque chancelante. Thank you. C'est tout entière maintenant que je me dresse dans cette chambre blanchie à la chaux. La lumière filtre à travers le store et dehors les pinèdes, les cris de l'été. C'est au bout de ce voyage innocent, tout au bout, que je me dresse, pâle et la joie au bord des yeux. C'est toujours la même chose. On n'en revient jamais et on ne cesse de partir. Toujours la même chose.